Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sounou Assurance qui vous propose priorité santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il filtre le sang, assure la bonne hydratation du corps, régule la présence de minéraux dans l'organisme, produisent des hormones, des vitamines et permettent l'évacuation des déchets toxiques. Les reins sont des organes aussi vitaux que discrets. Une discrétion qui peut se révéler redoutable en cas de défaillance, car y compris en présence de certaines graves atteintes, eh bien, ces complications n'impliquent que tardivement des manifestations douloureuses, des symptômes significatifs. Ces troubles silencieux peuvent donc entraîner, nous le verrons au cours de cette émission, une prise en charge tardive, un diagnostic à un stade avancé de la maladie, d'où l'importance d'un dépistage régulier, d'une bonne information, d'une prévention efficace pour éviter que ces maladies n'évoluent jusqu'à l'insuffisance rénale, cette destruction qui impose aux patients la dialyse ou la greffe. Des solutions qui sont très loin d'être à la portée de tous les patients, surtout dans des régions dont les systèmes de santé sont vulnérables ou défaillants. L'insuffisance rénale qui, dans la moitié des cas, est associée au diabète ou à l'hypertension artérielle. Alors au quotidien, comment préserver la santé de nos reins? C'est le sujet de notre émission aujourd'hui, Priorité Santé. Prévenir l'insuffisance rénale, un travail donc de sensibilisation. Avec nous en studio, docteur Isabelle Tostivin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chargée de la communication scientifique de la Fondation du Rhin et présidente de l'association LUNE, Lithiase Urinaire Network. Le quotidien des patients en insuffisance rénale chronique. Nous écouterons tout à l'heure le témoignage de People Black, sous dialyse depuis plus d'un an, après une décennie de traitement, de chirurgie et de douleur. Et puis nous rejoindrons en République démocratique du Congo le professeur Jean-Robert Makoulo, chef de l'unité de dialyse du service de néphrologie des cliniques universitaires de Kinshasa. En fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à la question d'un auditeur, question adressée sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Isabelle Tostivin, 3 millions de personnes concernées en France par une maladie rénale. On va commencer par une sorte de topo général. Quelles sont les affections les plus fréquentes? Certaines sont réversibles, d'autres non.
Oui, on parle d'insuffisance rénale aiguë quand le rein est sidéré, par exemple lors d'une infection, lors d'une septicémie. On a besoin d'être dialysé pendant 2-3 semaines et puis le rein peut récupérer complètement. Par exemple, c'est l'histoire de Michel Chevalet qui, quand il était enfant, a eu une infection du rein.
C'est un journaliste scientifique très connu en France.
Très connu, qui est parrain de la Fondation du Rhin. Michel, si tu nous écoutes. Et donc, il a récupéré ad integrum. C'est le premier enfant qui a d'ailleurs été exsanguino-transfusé et dont on a changé le sang en 1949. Il raconte son histoire et il a donc aucune séquelle. C'est très différent de l'insuffisance rénale chronique quand le rein, il est victime de l'hypertension artérielle, du diabète, qui sont les deux grandes maladies qui peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le rein. Le rein qui filtre, on le sait, presque 200 litres d'urine par jour. On a comme une douche, si vous voulez, d'urine primitive. Ça filtre à gauche et à droite 100 litres et 100 litres. Et comme le ressac de la mer, on réabsorbe quasiment l'intégralité de ce qui a été filtré. Et dans ces cas-là, cette douche, quand elle passe de 200 litres à 100 litres, comme si on fermait, on a une insuffisance rénale de plus en plus impressionnante et de plus en plus sévère. Et quand on a moins de 10, 15 litres par jour pour nettoyer le corps, le sang, malheureusement, on a besoin d'être dialysé ou greffé.
Alors, on va parler justement de ces techniques un petit peu plus tard, mais vous avez cité ces maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle. Ça veut dire, et là c'est un message qui s'adresse à nos auditeurs partout dans le monde, ça veut dire que quand on souffre de ces deux maladies, entre autres, docteur Tostivin, il faut être vigilant, ça veut dire qu'il faut faire des examens particuliers.
Il faut se faire dépister. Alors d'abord, l'hypertension artérielle, dès que le rein souffre de manière chronique, le rein va synthétiser une hormone qui s'appelle la rénine, qui est puissamment hypertensive. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on a une maladie comme le diabète, et ça, les diabétologues le savent très très bien, il faut rechercher la présence d'albumine par des techniques qu'on appelle microalbuminurie, donc des très faibles quantités d'albumine dans les urines. Ça signe, si vous voulez, que le rein souffre et il pleure de l'albumine. Moi, je dis à mes étudiants, écoutez le rein qui pleure de l'albumine, parce que malheureusement, il n'est pas très très bavard, le rein. Ses urines, les urines sont bavardes, mais pas le rein. Donc, il faut savoir détecter des petites quantité d'albumine. Et d'ailleurs, avec l'association France Rein, il y a la Semaine Nationale du Rein au mois de mars et qui a mis en place le dépistage partout en France. Et c'est très, très utile.
Alors, une question qui se pose toujours pour nos auditeurs, c'est l'accès à ce dépistage, l'accès à ces examens. Docteur Tostiva, est-ce que ça coûte cher?
Alors, le dépistage, prise de pression artérielle et analyse urinaire, hein, avec une bandelette urinaire, ça n'est pas cher du tout. Ça nécessite d'être confirmé après par des dosages sanguins et puis des dosages urinaire, notamment pour l'albumine. Je voulais dire que, par exemple, pour avoir une idée de cette fameuse douche qui passe de 200 litres à moins de 10 litres et qui définit l'insuffisance rénale avec tous les stades, il y a 5 stades, le stade de la dialyse n'étant que le 5e, on fait faire beaucoup, beaucoup de choses en amont, eh bien on dose la créatinine. C'est un dosage sanguin, ça coûte pas très cher et ça permet de savoir où on en est dans cette douche, entre guillemets, capacité à épurer le sang de ces toxines qu'a le rein.
Donc c'est important pour justement intervenir à un stade plus précoce et ne pas attendre justement cette phase ultime du développement de la maladie.
Exactement, où apparaissent les signes cliniques qui sont une très grande fatigue, une pâleur, parce que très volontiers on a de l'anémie, on peut avoir un prurite, on se gratte à cause des toxines qui s'accumulent, on change de couleur, on a une couleur jaune paille et donc on est absolument épuisé, éreinté, puisqu'en fait l'organe, c'est un organe vraiment vital et aussi un organe de la vitalité, on pourrait le dire, comme en médecine chinoise on le dit, mais c'est vrai.
De la vitalité. Tout de suite, un témoignage.
RFI.
Nous sommes en ligne avec vous, People Black, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes responsable d'une boutique de vêtements à Paris, People Black. Oui. Vous êtes donc atteint d'une maladie des reins. Depuis un an, vous subissez plusieurs fois par semaine une dialyse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est déclaré? Comment vous avez su que vous aviez un problème avec vos reins?
En fait, c'est en allant faire des examens, c'est-à-dire en 2008, j'avais mal au ventre, juste une douleur de ventre normal. Mm-hmm. J'ai été voir mon médecin, mon généraliste, et puis le généraliste m'a demandé d'aller faire des analyses, c'est-à-dire faire un scanner IRM. Et donc c'est en faisant l'IRM qu'on a remarqué qu'il y avait une petite tumeur sur un des reins. Et il se trouve qu'on devait faire une biopsie, mais faire la biopsie, ils avaient peur, les médecins avaient peur que ça se propage. Donc du coup, on m'a opéré directement, ils ont vu sur le rein. Après la biopsie, ils ont vu qu'il y avait une petite tumeur qui était maligne. Donc du coup, dans l'ablation du rein, les médecins m'avaient dit, après ma première ablation en 2008, ils m'avaient dit que certainement dans 10 ans, il fallait que je me fasse dialyser. Tout simplement parce que j'avais l'autre rein qui ne travaillait plus du tout, qui travaillait à peu près à 30%. Donc ça a duré pendant 10 ans en suivant généralement le néphrologue, me suivait généralement. Et 10 ans après, je suis parti faire des examens. Ils se sont rendus compte que l'autre rein avait été attaqué aussi. Et donc du coup, on a fait une ablation aussi. Et c'est depuis un an à peu près, je suis dialysé 3 fois par semaine à la clinique de Turin, à Paris.
Alors, une prise en charge, on imagine, qui est assez lourde. Pour décrire ce que c'est, tout le monde connaît ce mot de dialyse, mais les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Ça vous prend simplement combien de temps?
Ça prend environ, une dialyse normale, c'est 3 fois par semaine, c'est-à-dire 4 heures à chaque fois, pour faire le nettoyage, justement, faire le travail de rein. Il faut au moins minimum 3 séances de dialyse par semaine.
Et donc vous rendez en clinique sur le plan professionnel, est-ce que ça vous a compliqué votre activité? Vous avez pu poursuivre quand même votre travail?
Oui, je peux poursuivre mon travail, mais je peux plus travailler. Je travaille que les jours non dialysés. Je travaille
bien
pas
sûr
tous les jours dialysés parce qu'il y a, c'est quand même assez relativement fatigant. C'est très très fatigant les dialyses.
Vous y allez en début de journée, après vous restez à la maison?
Après je me repose, je reste à la maison, ouais.
Et vous avez un suivi particulier qui est associé à ce traitement? Quand vous arrivez, vous êtes accueilli, on vous installe, on va dire en quelque sorte on vous branche, et puis après justement il y a le retour à la maison. À côté de ça, vous voyez régulièrement un néphrologue?
Régulièrement, de toute façon, à chaque séance de dialyse, il y a le néphrologue qui est là, qui passe. Donc qui est à tous les séances de dialyse, quoi. Le néphrologue qui contrôle.
La dialyse en attendant peut-être une greffe demain, People Black?
Oui, en attendant une greffe, c'est ça.
Vous êtes sur liste d'attente? Est-ce que vous savez comment ça se passe?
Comment ça se passe? Eh ben, c'est en fait la liste d'attente, vous avez un numéro et on vous appelle. Si on vous appelle, il faut être présent, quoi, de toute façon. Hein. Mm-hmm. Faut être présent de suite dans l'immédiat. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis sur liste aujourd'hui, c'est pas forcément tout le monde est donneur potentiel aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a des listes. Et après, ça dépend de votre groupe sanguin, et puis ça dépend à quel niveau vous êtes sur la liste. Il y a un minimum d'attente de au moins 2 ans, 2-3 ans.
Et c'est quelque chose que vous espérez, cette greffe, People Black?
Ah, bien sûr que je l'espère. Bien sûr que je l'espère, ça sera une seconde vie.
Comment vous gérez cette maladie avec votre entourage? Vous avez choisi, c'est ma dernière question, vous avez choisi plutôt la transparence ou plutôt une forme de discrétion?
Non, la transparence, parce que vraiment, je veux pas du tout le cacher, parce que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui et à n'importe quel moment. Les maladies des reins, en plus, savoir que les reins, quand on a mal aux reins, on n'a pas mal, hein. On sait pas, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir forcément. Donc, c'est pour ça que vraiment, je cache pas du tout cette maladie. Je la montre même sur les réseaux sociaux quand je suis en séance de dialyse. Ça me dérange pas du tout de le cacher, parce que je pense qu'il faut le savoir, parce qu'il faut vraiment trouver le moyen d'aider, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, c'est très très contraignant, et en même temps ça vous change complètement votre façon de vivre, ça c'est une certitude.
Merci infiniment pour ce témoignage et pour justement diffuser de cette façon l'information. Merci People Black, très bonne journée à vous.
RFI.
Illustration très concrète, hein. Dialyse, attente de greffe, docteur Isabelle Tostivin, je vous voyais réagir justement sur cette volonté aussi de communiquer. C'est important pour expliquer d'abord que ça change la vie parce qu'il y a la contrainte, mais la vie continue.
La vie continue. En fait, ceux qui connaissent le prix et l'importance des reins, c'est ceux qui ont perdu cette liberté, justement, de ne pas avoir besoin de la dialyse. Donc, comme l'a dit People Black, c'est très, très important de faire circuler l'information. Il a eu ce qu'on appelle une anéphrie, c'est-à-dire qu'on lui a retiré les deux reins. C'est très important de dire qu'il y a des cancers du rein de plus en plus fréquents et qu'on travaille main dans la main avec les urologues, qui sont les chirurgiens des reins. Donc néphrologue et urologue, on connecte beaucoup, et donc je souhaite à People Black d'être appelé très très bientôt.
D'avoir ce petit coup de téléphone qui change la vie.
Ah oui, parce qu'en fait quand on ne fait plus du tout pipi, donc c'est son cas, il y a des contraintes, on peut pas boire, on peut pas manger ce qu'on veut, on est vraiment tenu à ces 3 séances, et donc voilà.
Justement, je voulais y venir. Est-ce que ces atteintes rénales, on l'a compris, sévères, graves, imposent des changements importants en termes de régime alimentaire?
Énormément, surtout quand on n'a plus du tout de diurèse, comme on dit, qu'on ne fait plus du tout pipi. En permanence, notre métabolisme nous fait accumuler de l'eau, même sans en boire. Donc, il faut limiter les boissons, il faut limiter le potassium. Le potassium, ce sont les fruits, les légumes. Il y a du potassium un petit peu partout. Donc, il faut s'astreindre à un régime assez... Et c'est une vraie contrainte. Ça nous donne en inverse, en miroir, le côté tellement précieux des reins. Tellement précieux, qui en permanence, 24 heures sur 24, élimine le potassium, la charge acide, etc. Sinon, notre cœur s'arrêterait au bout de quelques minutes de vie.
Alors, avant de prendre des auditeurs en ligne qui ont des questions à vous poser, docteur Tostivin, il y a d'autres maladies des reins qui peuvent conduire à cette insuffisance. Vous pouvez nous en parler de quelques-unes d'entre elles?
Alors, il y a certaines maladies génétiques aussi, comme la plus connue d'entre elles, c'est la polykystose hépatorénale.
Là, ce sont des kystes
Sont des kystes qui progressivement vont détruire tout le rein, parfois également même le foie, et c'est transmissible, donc on peut avoir des familles entières touchées par la polykystose, en sachant que si on est atteint de polykystose et qu'on a vu son grand-père ou son arrière-grand-père ou sa mère souffrir, on n'aura pas la même maladie forcément, l'expression, parce que on parle aussi beaucoup d'épigénétique. On peut faire énormément de choses dès lors qu'on sait qu'il y a une atteinte du rein. Par exemple, on peut aussi modifier son alimentation pour faire de la néphroprotection. C'est tout un champ qui s'ouvre. Hein. On a des outils dorénavant, à la fois nutritionnels, mais aussi des médicaments pour ralentir la dégradation de l'insuffisance rénale. Pour les autres maladies, par exemple, il y a les conséquences des infections, hein, des infections sévères comme les pyélonéphrites, les, comme on l'a vu avec People Black, les conséquences quand on a un rein en moins et qu'on est obligé de retirer l'autre rein parce qu'il y a aussi une tumeur, malheureusement, là, la dialyse s'impose.
On va prendre tout de suite les auditeurs de l'émission en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Un premier auditeur qui nous appelle de Mauritanie, la capitale Nouakchott, c'est Oumar. Oumar, bonjour.
Bonjour madame, bonjour docteur.
Bonjour Oumar.
On vous écoute, allez-y.
Bon, en fait, moi mon problème pendant longtemps, pendant l'enfance, quoi, j'ai eu de douleurs au bas du dos, à côté gauche. Bon, ça m'est arrivé deux fois et troisième fois sans être médicalisé. Non, deuxième fois sans être médicalisé. Troisième fois, ça m'a trouvé au capital, j'ai fait consulter. Mm-hmm. Bon, d'après le docteur, ils m'ont dit que j'ai un problème de colique néphrétique, mais modéré. Ils ont fait des radios, une échographie, et après ils m'ont dit deuxième radio pour compléter les résultats. Deuxième radio, c'est IIV, comme vous le connaissez.
Oui, urographie. Ils m'ont dit...
Oui, exactement. Bon, ils m'ont dit maintenant c'est colique néphrétique, mais modéré. Ils ne m'ont conseillé que de boire beaucoup d'eau. Bon, maintenant, mon question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a les conséquences? Parce que de temps en temps, j'ai des douleurs toujours au bas du dos, mais ce n'est pas comme par le passé. Bon, maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a les conséquences à long terme ou au court terme, ou bien ça peut engendrer d'autres maladies dans mon corps, quoi.
Pour commencer, merci beaucoup pour votre question, Oumar. Docteur Tostivin, la colique néphrétique, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi précisément?
C'est quand vous avez un petit caillou, qu'on appelle donc un calcul, qui se coince dans le tuyau entre le rein et la vessie, qu'on appelle l'urtère. Comme le rein continue à excréter en permanence l'urine, il y a une dilatation, une mise en tension des cavités intérieures du rein et ça fait très très mal, ça fait vraiment très très mal. C'est parmi les pires douleurs, on parle de douleurs frénétiques, on ne trouve pas de position antalgique et dans ces cas-là, il faut surtout pas boire parce que ça aggrave la crise au moment de la crise, de la migration. Souvent, c'est un tout petit grain de riz qui fait 7-8 mm x 3-4 mm maximum. Il se coince souvent dans la transition avec la vessie, entre l'urtère et la vessie. On peut conseiller donc de ne pas boire et de bouger. On peut prendre aussi du jus de citron pour essayer de faire passer la crise. Et puis, il y a des médicaments pour interrompre la douleur, hein, des anti-inflammatoires. Pour la prévention, Oumar, pour répondre à votre question, ce qui vous a été conseillé, boire, c'est très important, mais en fait, il faudrait uriner très régulièrement, plus de 2,5 litres ou 3 litres, parce que le fait que vous ayez démarré les calculs dans l'enfance, ça sous-entend que votre corps en fabrique indépendamment de l'alimentation. Si vous expulsez le calcul un jour, ça peut être très très important de le photographier, de l'analyser ou de me l'envoyer via le site internet Lune, parce que dans ce site, il y a les moyens de trouver des solutions pour savoir s'il y a d'autres conséquences. Et par rapport à votre question, si vous urinez plus que 3 litres, et en particulier, c'est très important d'uriner la nuit et de reboire la nuit, parce que c'est là où les cristaux se fabriquent, quand il y a un peu, beaucoup, passionnément, trop d'un substrat, enfin d'une toxine, ça peut être du calcium, ça peut être de l'oxalate. Donc les conseils qui vous ont été donnés sont les bons.
Alors, Lune, pour bien préciser, ça s'écrit non pas comme l'astre céleste, mais L-U-2-N-E. Et deuxième précision, est-ce que toutes les eaux sont bonnes à boire quand on doit boire autant? Est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut éviter?
Alors évidemment, ça dépend de la nature du calcul et la recette à l'origine de la fabrication du calcul, elle est dans le calcul. C'est ça qui est tellement précieux. Ce sont des pépites d'informations. Vraiment, c'est très précieux de le dire, premièrement. Deuxièmement, pour les eaux, Cela dépend. Parfois, il va falloir boire des eaux particulièrement alcalinisantes pour augmenter le pH. Quand on fabrique, par exemple, des calculs d'acide urique, quand on a pris un peu de poids dans la deuxième moitié de l'âge, c'est très important. Alors que si une femme jeune qui a un calcul à cause d'une infection urinaire, à Proteus mirabilis, c'est un germe qui adore construire un calcul qu'on appelle coralliforme, qui moule les cavités du rein, dans ces cas-là, l'eau riche en bicarbonate comme la Vichy, ça va être totalement contre-indiqué parce que ça va entretenir l'infection. Donc c'est
donc
à la
ça
carte.
Dépend. Les calculs, c'est au pluriel.
C'est vraiment au pluriel.
Voilà.
Montrez-moi votre calcul, je vous dirai qui vous êtes. Enfin, c'est quasiment comme ça.
Voilà, donc Oumar, ce conseil de boire en grande quantité, c'est un bon conseil de vos médecins quand vous n'êtes pas en période de crise.
Tout à fait, c'est ça.
Très bonne journée à Nouakchott Oumar. On part pour la République démocratique du Congo, pour Goma, avec Deo Gracias qui est en ligne avec nous. Deo Gracias, bonjour.
Oui, bonjour, merci, bonjour docteur.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Bon, moi, c'est depuis plus d'une année que je souffre. Et après, j'avais fait les examens il y a au moins 4 mois. Mm-hmm. Et là, on m'avait diagnostiqué que j'ai souffert des reins. Et là, j'ai commencé à sentir les douleurs abdominales, la paralysie au niveau du dos, et la jambe gauche et le bras droit gauche. Mm. Et par la faute de moyens, on m'avait conseillé de prendre régulièrement beaucoup d'eau mélangée au citron. Alors,
et aujourd'hui,
mon problème
oui.
est que... Oui, allez-y.
Non, je disais, votre question, c'est justement sur cette insuffisance rénale. Est-ce qu'on vous en a dit plus au sujet du stade de cette insuffisance rénale?
Bon, on m'avait dit que c'est au niveau, ça se trouve dans une phase de la primaire et qu'il fallait aller le plus tôt possible à l'hôpital, voir ce qu'on peut faire pour arrêter cette maladie.
Et est-ce que vous êtes rendu à l'hôpital, Deo Gracias?
Bon, je n'avais pas eu de moyens, j'attends toujours comment avoir des moyens. C'est pourquoi je viens auprès de vous demander comment je peux guérir sans pour autant d'aspirer beaucoup de moyens, puisque je n'en ai pas.
On a bien compris, un problème d'argent pour se faire soigner, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Docteur Tostivin, c'est forcément compliqué, hein, être soigné des reins quand on a une insuffisance en dehors d'un cadre médical, c'est quelque chose de difficile, voire d'impossible.
C'est très difficile, effectivement, parce que ça sous-entend une structure, un système sanitaire très structuré et... On n'a pas tous la France, la chance d'habiter comme en France.
Ou d'avoir un bon système de santé.
D'avoir un système de santé aussi efficace. Est-ce que vous avez eu un dosage de la créatinine dans le sang, Deo Gracias?
Vous avez fait des examens sanguins, une prise de sang?
Non.
Non.
Vous n'avez pas fait de prise de sang.
Et est-ce qu'on a regardé dans le rein s'il y avait quelque chose qui... Est-ce qu'il y avait un calcul? Parce que quand les reins, quand on a mal, souvent, ça peut être soit un calcul, soit un polype. Enfin, est-ce qu'on a fait une imagerie?
Est-ce qu'il y a eu une sorte de radio de fait aussi?
Non.
Oui, on avait fait la radio.
Et qu'est-ce qu'on a vu?
Bon, on avait dit qu'il y a des boules là qui sont...
D'accord.
Sur les reins gauche.
D'accord.
Oui.
D'accord. Donc en fait, vous avez probablement soit une malformation qui augmente la tension dans la cavité. C'est pour ça que vous avez la douleur, parce que normalement, on n'a pas la douleur, même en cas d'insuffisance rénale. Donc le conseil, c'est plus effectivement de boire. C'est très intéressant de boire, de uriner plus, et puis de trouver la position où vous avez le moins mal possible, parce que ça doit comprimer. En soi, ceci étant, Deo Gracias, c'est pas forcément une insuffisance rénale, parce que si vous avez le mal à gauche, ça veut dire que le rein droit, il peut prendre en charge, parce que vous êtes jeune, enfin j'entends que vous êtes assez jeune, donc ça c'est important de le savoir.
Ça veut dire que si on a par exemple un rein abîmé, si l'autre continue à fonctionner,
oui.
On n'a pas besoin d'un relais extérieur.
Non, c'est ça. Alors après, il faut faire attention. Il faut faire attention à la prise de tension. Peut-être que vous pourriez prendre la tension. Et si la tension elle est à plus de 13, 9, là, si la tension commence à augmenter, on peut se dire, attention, le deuxième rein souffre aussi.
D'accord, voilà. Donc aller au moins voir un médecin, pas forcément à l'hôpital, peut-être dans un centre de santé.
Oui, ça peut être très intéressant
quelqu'un
déjà.
Quelqu'un qui vous prenne la tension pour regarder si vous n'êtes pas hyper tendu.
Et regarder le blanc dans l'œil, hein, pour savoir si les conjonctifs sont pâles ou pas, pour savoir s'il y a une anémie ou pas, si vous êtes fatigué en plus.
Il y a des signes qui sont peut-être moins chers pour essayer de faire des petites recherches pour commencer.
Oui, pour avancer.
Avant d'aller plus loin. Voilà, Deo Gracia, ce que l'on pouvait vous dire. On vous souhaite une bonne journée, bon courage à Goma. On part pour le Togo, hein, on retourne en Afrique de l'Ouest, à Lomé, avec Camilou, avec nous. Bonjour Camilou.
Bonjour Caroline.
Le docteur est à votre écoute, allez-y.
Ah ok, bon. Bonjour docteur. En fait, c'est un voisin du quartier qui est dans les cinquantaines, donc il souffre de l'insuffisance rénale. Donc, il va souvent en Tunisie avec un de ses cousins pour les dialyses. Donc, moi, j'ai approché une fois son cousin en lui demandant si, bon, au cas où on pouvait le changer de rein, ça ne serait pas bien. Et il m'a dit que c'est comme ça. On les a dit que s'il se faisait changer de rein, il va vite mourir. Donc, moi, mon inquiétude, c'est que je voulais demander si le changement de rein peut diminuer l'espérance de vie à la dialyse.
Alors, c'est une question qui est vaste, hein, que vous posez, Camilou. C'est sur les risques associés à la transplantation, à la greffe de rein. Docteur Tostivin, quand il y a cette greffe, il y a tout un traitement autour. Bien sûr, on ne rentre pas chez soi le lendemain sans médicaments. C'est lourd. Il faut être pris en charge, mais quand, encore une fois, le système de santé est à la hauteur, c'est une bonne solution.
C'est une excellente solution. C'est une excellente solution, on retrouve sa liberté puisqu'on n'est plus branché à une machine. On retrouve sa qualité de vie, parfois on peut même retravailler. Mais comme vous l'avez bien dit, effectivement, les 6 premiers mois sont compliqués parce qu'en fait, on va endormir complètement le système immunitaire, nos défenses, pour que la personne dialysée puisse accepter le rein d'une autre personne qui n'est pas elle-même. Donc on a des anticorps, donc tout le monde ne peut pas être greffé, il y a un énorme bilan en amont, et une fois qu'on est greffé, il y a les 6 à 12 premiers mois qui sont risqués parce qu'on peut avoir des infections très sévères.
Ça veut dire déjà, Camilou, que si votre voisin allait en Tunisie ou dans un autre pays pour y subir une greffe parce que il n'y a pas de greffes qui sont faites au Togo, ça veut dire déjà qu'il faudrait qu'il y ait un séjour hospitalier très long, donc ça sera très coûteux, donc il y a aussi toutes ces choses qui entrent en ligne de compte.
Ok.
Et au moins, c'est pas forcément 6 mois d'hospitalisation, mais des consultations à raison de 2-3 fois par semaine les 6 premiers mois.
Moi, j'ai une question, Camilou, votre voisin, il va se faire dialyser en Tunisie. Il y a pas de dialyse à Lomé ?
Non, en fait, le gars en question n'accepte pas. Il n'accepte pas faire ça au Togo.
Il veut pas le faire au Togo. Pour lui, c'est plus. Il se sent plus en sécurité à aller le faire en Tunisie.
Oui.
Pourtant, quand il y a des services hospitaliers qui offrent ce type de soins, c'est déjà beaucoup moins de fatigue de le faire près de chez soi plutôt que voyager et engager tous les frais associés à des soins loin de la maison. Ben voilà. Camilou, j'ai posé une question parce que ça m'intéresse aussi et j'ai pas la réponse. Docteur Tostivin, il dit il va faire des séjours de dialyse. La dialyse, c'est pas quelque chose qui est vraiment absolument régulier, qu'on doit faire quasiment plusieurs fois par semaine. Comment ça se passe justement le choix de programmer tel ou tel jour de dialyse ?
Alors, pour les personnes comme People Black qu'on a entendu tout à l'heure, c'est absolument vital les 3 fois 4 heures par semaine. Et si on saute une séance, il y a un risque vital. Pour d'autres personnes qui ont encore leur rein qui fonctionne un tout petit peu, on peut comprendre que parfois on est un peu des séances de dialyse entre guillemets à la carte pour retirer les symptômes quand on n'arrive plus à manger, qu'on a des nausées. Mais ça, c'est un message compliqué à faire passer parce qu'en pratique, ce n'est pas optimal. En pratique, je suis d'accord avec vous, Caroline, que il existe des structures de plus en plus hein, en Afrique. Et je salue tous mes collègues d'Afrique subsaharienne avec qui j'ai travaillé, parce que le niveau a vraiment considérablement progressé. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on a beaucoup de contacts en fait. Il y a la Société francophone de dialyse, de transplantation et de néphrologie, et vraiment on travaille de plus en plus. Et il y a, moi j'ai beaucoup de collègues qui sont de très grande qualité, qui sont repartis et qui croient en l'avenir dans leur propre pays. Donc à voir à l'avenir, à construire.
À construire. On va prendre un dernier auditeur du Burkina. Il nous reste assez peu de temps, mais je voulais donner la parole à Charles. Charles, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Charles, allez-y.
Ok. Il y a à peu près 5 ans, j'ai eu une relation. Les rapports sexuels ont protégé. Et j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, j'ai banalisé pendant 2 ans. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des douleurs lors de la nuction, et un écoulement de pus au niveau de mon pénis, je suis allé consulter. Donc, arrivé chez le gynécologue, que j'étais avec ma copine du moment, il a évoqué une urétrite. Et il a prescrit un antibiotique et une pommade. Donc, j'ai utilisé. La boulie a disparu, les écoulements aussi. Mais la pesanteur était toujours là. Donc, pour faire court, à peu près un an après, je suis allé consulter un urologue. Il a prescrit des examens. Les examens n'ont rien donné. Et puis, j'ai fait un peu d'automédication pour essayer de me soigner, ce qui a fait disparaître la douleur. Donc, ma question, c'est de savoir si cette urétrite maltraitée peut avoir des complications au niveau des reins.
C'est une question très intéressante. Donc, au départ, on l'a compris, c'était une infection sexuellement transmissible hein, dont nous parle Charles. Est-ce que si c'est laissé dans l'organisme, ce type de problème de santé, cela peut jouer sur la santé des reins, docteur ?
Alors, l'urétrite, c'est après la vessie. Donc, c'est très, très loin du rein. Et donc, on peut rassurer Charles le risque d'avoir une maladie rénale. Donc, c'est-à-dire très haut dans l'appareil urinaire, très haut à plusieurs centimètres. Hein, c'est quasi impossible. En pratique, ça ne fait pas partie des causes classiques. En revanche, ça me donne l'occasion de vous dire que certaines personnes en particulier, donc les hommes qui sont gênés par leur prostate, pour le coup, alors même si c'est après la vessie, quand la prostate enfle et qu'on n'arrive pas à vider précisément sa vessie complètement, il reste un résidu qui, lorsque la vessie essaie de se contracter comme un ballon pour essayer d'évacuer l'urine peut remonter dans les reins. Et dans ces cas-là, là, il y a un risque pour avoir une maladie rénale avec des conséquences qui peuvent même aboutir à la nécessité de dialyse si on n'a pas fait attention en amont.
Voilà pour cette réponse, Charles. Et on imagine que le médecin, vous avez fait bien sûr aussi passer le test du VIH hein, après ce rapport non protégé. On vous souhaite une excellente journée, Charles, au Burkina Faso. Et on va partir tout à l'heure, docteur Tostivin, vous parliez justement des spécialités qui progressent en Afrique subsaharienne. Justement, la parole à l'un de ces spécialistes. Tout de suite, on va rejoindre Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
En République démocratique du Congo, on vous retrouve. Professeur Jean-Robert Makulo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chef de l'unité de dialyse du service de néphrologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Docteur Makulo, est-ce que vous avez des chiffres, des données au sujet de ces maladies du rein en RDC, peut-être précisément dans la capitale ? Ah, la ligne se dégrade. On attendait parce que des fois, c'est vrai qu'il y a quelques petites secondes de décalage entre ma question à Paris et la réponse à Kinshasa. Professeur Makulo, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Hélas, hélas. On va essayer de vous rejoindre. Hein. Il nous reste peu de temps, mais on recompose votre numéro. On insiste parce que c'est important de vous donner la parole. Tout à l'heure, on a abordé rapidement le sujet de la greffe. Docteur Tostivin, j'aimerais qu'on y revienne. Est-ce qu'il y a des limites en termes d'âge?
Il n'y a plus réellement de limites parce qu'on parle d'âge physiologique et de plus en plus, on a des personnes qui arrivent en très bon état physiologique qui ne correspondent pas à l'âge de la carte d'identité.
Donc, on a parlé depuis le début de cette émission, on l'a bien compris, de l'importance de la prévention quand on a des pathologies chroniques, l'importance de faire des examens. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on doit éviter quand on souffre des reins ?
Alors ça, c'est une excellente question. Les anti-inflammatoires, qui sont donc des antalgiques prescrits très très souvent, très facilement, lorsqu'on les cumule sur plusieurs années, on sait que ce n'est pas bon ni pour le cœur, ni pour les reins. Ça donne de l'hypertension. Et donc, toute automédication également avec les plantes, il faut faire très attention aussi. Et enfin, quand on a plusieurs médicaments sur l'ordonnance, eh bien, on sait qu'il y a un risque rénal également. Notamment quand on prend des anticancéreux, quand on prend certains médicaments, ça, la communauté médicale le connaît. Enfin, certains compléments alimentaires, on va entrer dans l'hiver, il faut être attentif parce que, par exemple, la vitamine C prise en très grande quantité en comprimé de 500 mg alors que les besoins sont nettement inférieurs, c'est potentiellement toxique pour le rein. Et ça, c'est très peu connu.
Et ça veut dire qu'il faut en parler à son médecin, y compris quand on prend des choses justement qui n'ont pas été prescrites par un médecin. Il faut dire tout ce que l'on prend pour qu'il puisse évaluer si oui ou non il y a un risque.
Par exemple, avec son médecin et encore mieux également avec son pharmacien. Par exemple, quand on est transplanté du rein, on ne peut pas prendre de millepertuis ou parce qu'il y a des interactions avec les immunosuppresseurs ou de jus de pamplemousse en boîte. Enfin, il y a des interactions à connaître.
Il y a tout un tas de règles. On va prendre rapidement, parce qu'on a réussi à le rejoindre, le professeur Jean-Robert Makoulou à Kinshasa. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, madame.
Du coup, il nous reste moins de temps, mais on va quand même vous donner la parole. J'aimerais savoir si, dans le contexte de la République démocratique du Congo, quel type de réponse thérapeutique vous proposez à des personnes qui sont en insuffisance rénale?
Ma première réponse, c'est d'abord prévenir la maladie rénale chronique. Prévenir, c'est-à-dire éviter toutes les maladies qui exposent à l'insuffisance rénale chronique. L'hypertension, le diabète, les infections chroniques comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la néphrotoxicité. Nos populations s'exposent beaucoup aux plantes médicinales néphrotoxiques. Donc, c'est le dépistage. Deuxièmement, la prise en charge précoce. La population doit savoir que l'utilisation des plantes médicinales, l'utilisation des produits néphrotoxiques, l'automédication coûte de loin plus cher qu'aller consulter dans un centre de santé un examen de routine qui permet de dépister la protéinurie, on permet de doser la créatinine, ça se fait à des examens moins chers. Les gens pensent que consulter, ça coûte cher, c'est pas forcément vrai. Il est vrai, la maladie rénale chronique est un problème, un fléau. 12,4% de la population adulte du pays est concernée.
Oui, c'est énorme.
La maladie au stade 5, qui concerne la dialyse, c'est 0,2%. Donc, il y a de la marge pour atteindre le stade 5. Arriver au stade 5, c'est généralement plusieurs années de mauvaise prise en charge, de mauvaise suivi. Donc, la population doit apprendre à consulter pour se faire dépister et prévenir la progression de la maladie vers le stade 5 qui coûte très cher.
Professeur Makoulou, vous avez dit automédication, mais il peut aussi y avoir, quand on va chez le tradipraticien, certaines plantes là qui sont prescrites par ce tradipraticien sans dire que ce n'est pas bon. Là aussi, il faut faire attention.
Oui, l'effort doit être fourni pour déjà identifier quelles plantes sont néphrotoxiques et quelles plantes ne le sont pas. Mais dans le doute, nous disons abstenez-nous.
Et pour la prévention, justement, tout à l'heure, vous avez dit 0,2%, hein, j'ai bien noté, qui arrive à un stade très avancé de la maladie. Pour ces personnes, qu'est-ce que vous proposez?
Bon, nous proposons d'abord de traiter correctement toutes les maladies qui exposent à l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension, les diabètes, les infections chroniques comme le VIH, comme l'hépatite B, comme l'hépatite C, éviter le produit néphrotoxique. Déjà, la Société congolaise de néphrologie organise régulièrement des campagnes de dépistage des maladies rénales chroniques dans la population. Mais nous insistons aussi pour former le personnel de santé, parce que c'est ce personnel dans les centres de santé qui est exposé à ces patients, à ces sujets, qui doit connaître qu'est-ce qu'il faut dépister. Parce que sans cela, nous pensons que ça sera difficile de gérer la maladie rénale chronique.
Merci beaucoup. Faire passer l'information. Merci pour ces réponses concises et très précises, professeur Makoulot, chef de l'unité de dialyse du service de néphrologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Et ce sera notre conclusion, docteur Isabelle Tostivin. On l'a bien entendu, hein, y compris avec les auditeurs, le véritable fossé en matière d'accès aux soins, accès au traitement. Et là, dans les cas de stade terminal, les traitements sont excessivement lourds et coûteux. C'est pénible pour le patient, mais c'est très lourd pour le système de santé, d'où la nécessité, une dernière fois, d'insister sur cette fameuse prévention.
Prévention. Bravo à mon cher collègue. Je n'aurais pas mieux dit. Hein. La prévention, c'est absolument majeur et on peut énormément, on peut faire beaucoup de choses pour éviter la dialyse, éviter même la transplantation.
Et quand on dit activité physique, ça veut dire que même quand on est déjà avec des reins malades, on peut continuer à faire de l'activité physique.
Oui. Alors selon son état de fatigue, mais nous on prescrit par exemple beaucoup de pédalier, vous savez, sous les tables et pour les personnes âgées, pour faire tourner soit les bras, soit les pieds. Toute activité physique, même douce, du moment qu'elle est quotidienne, cela va augmenter la circulation sanguine. Et je vous rappelle que votre rein, hein, il tient dans votre main quasiment. C'est un tout petit organe et pourtant, il fait un travail merveilleux.
Et au niveau des mauvaises habitudes, le mot de la fin, est-ce qu'il y a vraiment des choses à éviter ?
On n'a pas parlé du tabac. Ça, c'est vraiment quelque chose d'effroyablement toxique pour le rein.
C'est bientôt le mois sans tabac, c'est l'occasion d'arrêter de fumer, mais on le répète sans arrêt. En fait, si on regarde n'importe quel organe du corps, oui, dès qu'on parle de fumer, c'est néfaste.
C'est très très néfaste, notamment pour les femmes qui ont des infections urinaires à répétition. Il y a une agression de la muqueuse épithéliale, ça donne des cancers de la vessie, ça donne des cancers des cavités des reins, donc on est obligé de retirer les reins. Donc ça, ce serait, oui, un message.
Message prioritaire à faire passer. Merci beaucoup, hein, docteur Isabelle Tostivin, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chargée de la communication scientifique de la Fondation du Rhin. Et comme chaque semaine, on retrouve les questions des auditeurs qui concernent les questions de sexualité, pour répondre avec nous en studio, docteur Catherine Solano. Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Cet auditeur, c'est Loana, qui nous appelle de République démocratique du Congo, de Kinshasa. Bonjour Loana.
Oui, bonjour Catherine.
Docteur Catherine Solano vous écoute.
Oui, moi, ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir si on apprend la vie sexuelle sur Internet ou soit en regardant les films pornographiques. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est mauvais? Parce qu'ici en Afrique, pour parler de la vie sexuelle entre les parents et ses enfants, c'est un grand tabou. C'est ça ma première préoccupation. Et la deuxième, j'aimerais savoir si un enfant peut à lui seul prendre l'initiative de poser des questions en rapport à la vie sexuelle auprès de ses parents.
Alors, docteur Solano, d'abord cette première question. Éducation sexuelle par le film pornographique.
Eh bien, je préférerais répondre à la deuxième en premier.
Mais
si
vous
ça
n'y couperez pas, vous répondrez aux deux.
Non, mais c'est parce que c'est plus long.
Je comprends bien.
Déjà, il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions sur la sexualité, sur la vie sexuelle à leurs parents. Pourquoi mon zizi devient tout dur? Par exemple, je pense à un petit garçon qui disait « Pourquoi j'ai un zizi tour Eiffel ?» Ça veut dire « Mon zizi devient tout dur. Pourquoi j'ai des érections ?» Et ce qui se passe, c'est qu'ils posent des questions sur la sexualité à leurs parents quand ils sentent que c'est pas trop un tabou. S'ils sentent que les parents sont très gênés, ils vont poser une petite question une fois, puis ils oseront plus en poser, ils feront comme si ça n'existait pas. Alors que si on leur explique tout simplement la réponse à leurs questions, ils vont poser d'autres questions, et de plus en plus, parce que la sexualité, ça intéresse beaucoup les enfants, ils sont très curieux.
Docteur Solano, la plupart des questions à l'origine des enfants, c'est plus d'abord sur aussi la reproduction, et cette fameuse question, comment on fait les bébés?
Comment on fait les bébés, exactement, ou pourquoi mon zizi devient tout dur, ou pourquoi, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? En montrant une petite serviette hygiénique pour les femmes quand elles ont les règles. Pourquoi les gens ils s'embrassent? Enfin, vous voyez, plein de... Donc, c'est bien de répondre autant qu'on peut à leurs questions parce qu'ils en poseront d'autres et ils seront beaucoup plus à l'aise une fois adolescents et une fois adultes avec ce sujet.
Il y a peut-être le lien entre les deux. Quand on n'a pas les réponses, ouais. Là, on est peut-être tenté, voilà. Pour certains, d'aller vers la pornographie.
Exactement. Alors, quand les parents ne vous donnent aucune réponse, bah, vous vous dites, il y a un secret que les adultes gardent. Moi, je suis curieux et j'aimerais bien en apprendre plus. Et comme personne ne vous dit rien, vous allez chercher sur Internet et souvent sur la pornographie. Malheureusement, la pornographie, c'est pas du tout la manière idéale de commencer une vie sexuelle parce que c'est vraiment pas du tout la vraie vie sexuelle. C'est-à-dire que déjà les femmes sont présentées, ne sont pas du tout respectées, d'ailleurs les hommes non plus, je dirais, hein. L'être humain n'est pas respecté dans la pornographie. Ça montre des choses qui sont fausses au niveau de la taille du pénis, par exemple, qui rend beaucoup d'hommes complexés parce qu'ils se disent, moi j'ai pas un pénis aussi grand, j'arrive pas à avoir des érections pendant des heures comme les acteurs, j'arrive pas à avoir autant d'éjaculation, parce qu'il y a tellement de montage, c'est fait en 50 fois, vous avez l'impression que cet homme il a une érection pendant 5 heures, alors que vous vous dites, moi j'arrive pas, et ben c'est normal. Tout est faux, si vous voulez. Les femmes n'ont pas de plaisir, elles simulent le plaisir, elles vont crier, alors que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. On n'apprend pas du tout avec la pornographie aux hommes comment donner du plaisir à une femme. Et en plus, ce qu'il y a de pire pour moi dans la pornographie, c'est l'utilisation d'humains comme support d'excitation. C'est-à-dire que les acteurs et les actrices qui tournent dans ces films font quelque chose qui ne leur fait pas de bien à eux-mêmes. Et du coup, ça apprend à ne pas respecter des humains parce que ça vous montre qu'on peut se servir des gens comme d'objets. Et ça, c'est catastrophique. En plus, ça n'apprend pas du tout la sensualité. Les caresses, les préliminaires, n'en parlons pas, tous les baisers, toutes les caresses, etc. Donc, je dirais que c'est presque un contre-apprentissage, la pornographie. Et encore aussi, ça incruste dans le cerveau des fantasmes qui deviennent souvent pathologiques. Par exemple, vous êtes un jeune homme adolescent, vous avez une voisine que vous trouvez jolie et vous vous dites, ah, si je pouvais apercevoir ses seins, ça serait extraordinairement merveilleux. Ça serait quelque chose de... Quand vous regardez de la pornographie, vous voyez des centaines de paires de seins, vous voyez plein de choses et donc vos fantasmes vont se situer à des niveaux pornographiques au lieu de se situer à des choses naturelles de la vie. Et donc, je dis souvent, la pornographie, ça vole aux adolescents leur première fois. C'est-à-dire qu'ils vivent leur première fois devant un film pornographique au lieu de les vivre dans la vraie vie. Donc ça, c'est très dommage. C'est pour ça que je fais un appel aux parents pour parler de sexualité à leurs enfants pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher de la pornographie. Ils en auront beaucoup moins envie s'ils sont informés.
Voilà, Loana, pour cette réponse. Est-ce que cette longue réponse du docteur Catherine Solano, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Marianne, please, je l'ai bien comprise.
Très bien, merci, excellente journée à Kinshasa, docteur Solano.
Et oui. Je rajoute encore un petit quelque chose, c'est que, en fait, souvent, on confond pornographie et masturbation. C'est pas du tout la même chose. La masturbation, c'est quelque chose de naturel, de répandu universellement, qui habituellement se fait avec des fantasmes qu'on a dans la tête. On pense à des choses érotiques et on pratique la masturbation. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, est-ce que la masturbation c'est dangereux? Moi, je réponds toujours non. Mais pour beaucoup d'hommes, la masturbation c'est associé à la pornographie. Et ça peut être dangereux parce qu'il y a une escalade dans les fantasmes et souvent, après, dans la vraie vie, on peut avoir moins d'excitation, moins de désir parce qu'on est habitué à des images pornographiques. Donc, je voudrais bien scinder les deux.
Voilà votre réponse. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et aujourd'hui avec nous, Laurence Nau. Demain, vous retrouverez derrière ce micro Raphaël Constant, émission consacrée à la ménopause. On attend comme d'habitude vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.